Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire, une émission que nous avons enregistrée lors de la 12e édition de Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot. Château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Et c'est Jean-Baptiste Maudet qui est devant notre micro. Bonjour Jean-Baptiste Maudet.
Bonjour.
Je vais vous demander dans un premier temps, je n'ai que quelques éléments sur la quatrième de couverture de votre roman, premier roman distingué par le prix Orange cette année, roman qui a pour titre Matador Yankee. Je sais que vous êtes géographe, mais est-ce que je peux vous demander de vous présenter de manière plus complète à nos auditrices et auditeurs ?
Alors oui, je suis géographe, c'est-à-dire que je suis enseignant-chercheur en géographie à l'université de Pau. Mais en géographie, on travaille sur des sujets aujourd'hui assez divers et notamment, moi je travaille en géographie culturelle et j'ai beaucoup travaillé sur la frontière États-Unis-Mexique.
Alors il en est grandement question dans ce roman Matador Yankee. Votre personnage est un Américain qui s'appelle John Harper, qui a d'ailleurs une étonnante ressemblance physique avec Robert Redford, dont il pense être le fils, mais bon, c'est sans doute un père fantasmé pour ce jeune Américain. Enfin, je ne sais pas trop quel âge il a finalement dans le roman, parce qu'il a une carrière de matador et de torero qui semble être assez longue tout de même.
Alors oui, John Harper, Juan Harper de temps en temps, parce qu'effectivement, il est torero, il est né à Los Angeles. Il est blond aux yeux bleus avec des belles dents blanches. Il s'est inventé un père, comme vous l'avez dit, fantasmatique. Il serait peut-être Robert Redford, un peu pour avoir la paix avec ses petits camarades, puisqu'il a grandi dans un quartier mexicain.
Sa mère est d'ailleurs mexicaine.
Sa mère est mexicaine. Et ce John Harper, il a une quarantaine d'années. Sa carrière est plutôt derrière lui. Et c'est une carrière qui a été marquée par... au début, l'espoir de faire fortune, l'espoir de pouvoir aller torer au Mexique, d'accomplir son rêve, et puis rapidement, parce qu'il était gringo, parce qu'il n'a pas eu de chance, parce qu'il en faut beaucoup dans ce métier, il a commencé un peu à dégringoler les étages, à se mettre à boire, à avoir des dettes de jeu, et donc on le retrouve dans ce roman, un petit peu dans une période sombre pour lui, et il essaie de trouver des solutions pour s'en sortir.
D'ailleurs, la quatrième de couverture précise qu'il n'est pas tout à fait un torero raté. Et alors, le roman s'ouvre où on rencontre votre héros dans un bus qui l'amène dans un petit village mexicain, un village de fous. Alors, posons un peu l'intrigue pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien de quoi il retourne.
Alors, l'intrigue, elle est simple. Elle part en quelque sorte d'un mensonge croisé. C'est-à-dire que John Harper, il a une dette de jeu importante. Il va voir un de ses amis qui, en échange du remboursement de sa dette, lui propose d'aller torer dans la montagne, chez les fous, comme il dit, qui est un petit village mexicain perdu dans la Sierra Madre occidentale.
Pauvre, mais riche de personnages hauts en couleur.
Exactement, notamment le maire, puisque le maire est il est non seulement maire du village, mais il a une grande carrière de karatéka derrière lui. Il a été un grand champion mexicain de karaté. Et du coup, Harper se retrouve à la croisée de ces mondes, lui, torero gringo, rencontrant un maire karatéka mexicain. Voilà.
Et effectivement, bon, il est bien accueilli dans ce village. Alors, il y a une paella mémorable. Et ce qui est formidable dans votre roman, c'est aussi toute la part exotique. On est entre deux cultures. Vous avez dit que vous étiez géographe passionné par la culture. Vous connaissez bien donc cette frontière américano-mexicaine ou, comment dit-on, mexicano-américaine.
On peut dire les deux.
On dit les deux. Hein. Et effectivement, il y a ce va-et-vient chez ce personnage qui finalement est une sorte d'anti-héros. Sorte oui. D'anti-héros qui en plus, c'est pas un homme à femme spécialement. Sa vie, c'est l'amour pour une carrière de torero, où il a eu tout de même quelques coups d'éclat, vraisemblablement.
Il a eu quelques coups d'éclat, ça a été aussi difficile de s'imposer. Le livre parle un peu de... alors peut-être plus que d'exotisme, le livre joue avec les clichés de l'exotisme. C'est-à-dire que pour accueillir Harper, effectivement, le maire karatéka trouve rien de mieux que de lui faire une paella. Parce que comme il est torero, pour lui être torero, c'est être un peu espagnol, donc une paella est censée lui faire plaisir. À l'inverse, John Harper, lui, il cumule un petit peu les clichés sur l'américain, et comme il se lance dans une carrière de torero, il est complètement à contre-emploi. Donc arrivé dans ce village mexicain, ce qui va intéresser les Mexicains, c'est qu'il soit blond, c'est qu'il soit américain et qu'il soit mauvais torero. En fait, c'est ça qu'ils veulent voir. Ils veulent voir un gringo se ridiculiser chez eux. Donc il y a toujours cette ambiguïté sur les clichés qui joue sur le décalage frontalier et qui me permet d'introduire des éléments à la fois burlesques mais qui font réfléchir un tout petit peu sur notre rapport à l'autre et à l'altérité. Oui.
Alors le burlesque est bien représenté. Par exemple, les cadeaux qui lui sont remis lorsqu'il arrive à cette soirée accueillie par le maire karatéka qui a été membre donc de l'équipe nationale mexicaine. Donc il reçoit, alors donc il finit son verre de mezcal et donc il reçoit donc quelques dollars entourés d'un élastique, des pesos en petites coupures, une vierge incrustée de brillants, une belle dent de vache. Un ticket d'achat pour de la laine, une mèche d'amadou, deux cigarettes, un scarabée dans un cube en résine, des œillets plastifiés pour protéger, des feuilles de classeur, des messages d'encouragement, etc. etc. C'est très drôle cet accueil. Vous vous êtes rendu, je suppose, dans ces petits villages mexicains. Vous en connaissez sans doute.
Oui, j'ai un petit peu circulé dans ces coins, un peu à la frontière États-Unis-Mexique, Californie, Arizona, et puis de l'autre côté, Tijuana, quelques villages de la Sierra Madre, également plus loin vers l'État de Oaxaca. Enfin, il y a des villages étonnants avec à la fois un grand sens de l'accueil. Dans certains cas une pauvreté réelle, une simplicité réelle dans cet accueil. Donc j'avais bien envie que les villageois, puisque Harper va être seul à affronter les vaches, que les villageois puissent accueillir Harper comme il se doit. Donc chacun dans une petite bourse a donné un petit objet fétiche ou a donné un dessin, a donné un ticket, a donné quelques billets, a donné ce qu'il pouvait. Et du coup, on voit étaler sur la table un peu tout ce que peut représenter le village.
Des pacotis.
Exactement. Et là aussi, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire, à la fois, c'est une forme de générosité et c'est une forme d'accueil dérisoire puisqu'il se retrouve avec une dent de vache dans la main ou des choses
et
comme ça.
Et c'est émouvant néanmoins.
Voilà.
ce village avec son maire. Alors, ce qui est aussi, il y a l'épouse du maire qui est un personnage exceptionnel, Joséphina, parce qu'il y a une galerie de personnages, que ce soit la petite serveuse de bar avec laquelle il va y avoir ensuite une sorte de, comment dire, début presque de road movie d'une certaine manière. Et ça, c'est exceptionnel. Mais où vous allez chercher tout cela? Comment un géographe en vient-il à poser les décors? Ça, ils sont authentiques, et à inventer, faire surgir ainsi des personnages brillants, comme le père de la serveuse, ce vieil indien dont on se demande ce qu'il a pu être. On nous dit qu'il... c'était peut-être un marin, mais apparemment, on a l'impression qu'il est la réincarnation de Geronimo. Il y a quelque chose d'absolument formidable.
Alors là, il y a un vrai décalage entre le travail universitaire et la littérature. Si j'ai écrit ce premier roman, c'est aussi pour rendre hommage à toutes les personnes que l'on rencontre quand on va sur le terrain et qui sont un peu écrasées par l'analyse scientifique. C'est vrai que l'analyse scientifique en sciences humaines et sociales, elle écrase un petit peu la singularité, l'irréductibilité des caractères. Et ça, c'était rentré en moi depuis longtemps. Et j'avais très envie de parler avant tout, plus que des décors, de parler des gens que j'ai rencontrés et de l'ambiguïté, de la complexité des gens que l'on rencontre et qui finalement, parfois, dans les analyses en sciences humaines et sociales, sont rangés facilement dans des catégories d'un côté et de l'autre de la frontière. Et justement, ce roman, il a pour vocation de faire vivre... une dimension transfrontalière, une complexité de caractère au-delà des clichés et qui peut s'incarner en n'importe quelle personne, que ce soit un Indien, que ce soit la réincarnation de Geronimo, que ce soit un Mexicain champion de karaté ou un torero né à Los Angeles. Ça m'intéressait beaucoup de faire se rencontrer ces contradictions qui dans nos têtes parfois se rangent dans des cases différentes comme
mais dans ces petits villages mexicains pauvres qui n'intéressent pas les touristes mais beaucoup plus les sociologues, les anthropologues ou les géographes comme vous, Jean-Baptiste Maudet, vous avez puiser matière, mais y en a-t-il qui ressortent réellement sous votre plume, des personnages qui ne sont pas que des personnages de papier, mais qui auraient finalement une origine réelle, une dimension humaine que vous avez croisée?
Oui, j'ai rencontré ces gens-là, c'est-à-dire que j'ai rencontré des toreros américains à Los Angeles qui rêvaient de torer, donc d'aller en Espagne, donc d'aller au Mexique, qui parlent espagnol et qui ont même une attitude de gringo.
Et ils sont jeunes
adoptés, alors sous Ils sont plutôt âgés, la carrière est derrière eux, parce que la, en quelque sorte la mode aussi de la tauromachie, notamment dans des villes comme Tijuana ou dans des villes comme Los Angeles, San Diego, aujourd'hui c'est plus tellement à la mode la tauromachie, elle l'a été dans les années 50, 60, on voit cette galerie aussi de personnages, Orson Welles, on voit des acteurs, on voit même Robert Redford,
Robert Redford, adolescent même dans le
Robert
public.
Exactement. Donc cette pratique-là, elle a aujourd'hui beaucoup perdu de son attraction et de son attirance.
Mais c'est fini cette image un peu mythique, l'Ouest américain, le cow-boy, le garçon vaché. J'ai pensé par exemple, en vous lisant, Jean-Baptiste Maudet, à un film avec Marilyn Monroe, c'est Bus Stop, où Marilyn Monroe a un rêve de conquête hollywoodienne, et puis il y a ce jeune... Plouc, en fait, qui va à un rodéo. Alors, je ne sais plus le nom de la ville, mais c'est là qu'il rencontre, dans le bar, Marilyn Monroe, oui, qui est serveuse. Et j'ai beaucoup pensé à cette... C'est très, très cinématographique, très, très années 50-60.
Oui. Oui, et ça, c'est un aspect qui me tenait à cœur, c'est de montrer que le monde du rodéo, le monde des cow-boys et le monde de la tauromachie, dans ces espaces-là, ben, ce sont des cousins. C'est-à-dire que ce sont vraiment des pratiques qui se confondent, qui se mélangent. C'est le monde des chevaux, c'est le monde des taureaux, c'est le monde du bétail. Et donc, dans notre imaginaire collectif, on a d'un côté la tauromachie espagnole, de l'autre côté les cow-boys américains. Ces deux personnages-là sont censés n'avoir absolument rien à voir ensemble. Et pourtant, on peut dire que le cow-boy de rodéo et le torero de la corrida sont des proches cousins.
Et c'est-à-dire que maintenant, aux États-Unis, entre la frontière, parce qu'il est beaucoup question de cette limite, de la frontière. D'ailleurs, même votre héros, vous écrivez, il se sentait de la frontière. Bon, il a une double culture, mexicaine et américaine. Mais est-ce à dire que la tauromachie, je parle l'Amérique du Nord ou Amérique centrale, est-ce qu'aujourd'hui c'est ringard? Est-ce que c'est fini? Est-ce que l'âge d'or de cette période où tout de même était valorisé le corps, la force, le combat entre l'animal et l'homme, est-ce qu'aujourd'hui c'est fini, dépassé?
Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Je pense qu'aux États-Unis d'Amérique, la fascination pour l'exotisme qu'a pu représenter la tauromachie mexicaine, elle est un petit peu dépassée. De même que la ville de Tijuana, qui a fait beaucoup fantasmer l'Amérique. Aujourd'hui, les villes du loisir ou de la démesure américaine se situent plus du côté mexicain. On va plutôt à Las Vegas qu'à Tijuana. Las Vegas a grandi sur les décombres de Tijuana, qui était la ville de toutes les licences.
Est-ce à dire que finalement la tauromachie maintenant c'est l'Europe, c'est l'Espagne qui reste le pays central dans le monde où, alors très critiqué, bon la France aussi, on sait qu'il y a beaucoup d'associations, qu'il y a aussi un combat contre la cruauté érigée en spectacle dans les arènes, je ne sais pas, vous vous positionnez par rapport à ça?
Alors ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est que c'est un sujet très controversé, donc c'est une position pour une aventure romanesque qui aussi fait travailler en nous ces lignes-là, entre ceux qui ne connaissent pas, entre ceux qui connaissent et qui apprécient, entre ceux qui connaissent et qui détestent. Tous les points de vue sont recevables. Et quand on lit un roman qui, de toute façon, vient trifouiller cette matière et l'écho que ça peut faire en nous, c'est évident que ça rajoute aussi, je pense, une dimension au roman. Parce que même le torero, lui, il se pose des questions. Il se dit, mais est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce que c'est bien raisonnable au tout début du 21e siècle d'être encore torero, qu'est-ce que ça représente? Donc il y a aussi ces décalages et cette, cette réflexion sur la transformation historique de nos pratiques, de nos rapports aux animaux, de nos rapports à la violence et du monde du spectacle.
Et d'ailleurs, il faut dire que votre héros, John Harper, donc ce torero blond américain qui ressemble à Robert Redford et qui a cette double culture mexicaine et américaine, dans le roman, il cherche toujours à gagner du temps, ne serait-ce que par rapport au remboursement d'une dette de jeu, puisque malheureusement, il s'est fait un peu brûler par son addiction au jeu et peut-être aussi par l'ennui. Puis il gagne du temps aussi par rapport à la fameuse femme qui a enlevé... Enfin voilà, il y a toute une histoire. Oui. Donc il gagne du temps et il gagne du temps aussi peut-être parce que la vie lui est un peu insupportable. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu dépressif et que seul l'exercice de la fonction de torero pourrait sauver. Finalement, c'est une sorte de désespéré.
C'est un désespéré. Sa vie lui échappe. C'est-à-dire qu'il a rêvé d'être torero. Il n'a pas été à la hauteur de son rêve. Ensuite, il a des dettes de jeu. Il est alcoolique. Donc, il végète autour de cette frontière sans trop savoir ce que va être sa vie. Et puis, cette aventure, le fait de devoir retrouver Magdalena, la fille du maire, cette aventure le propulse dans un road movie, hein, dans un road trip et dans un road movie, avec cette galerie de personnages qui l'oblige évidemment à repenser à sa vie, parce que certains au moment où Harper les rencontre, certains personnages comme Miguel par exemple, bah lui au contraire retrouve une énergie, une vitalité, il pensait que sa vie était derrière lui, à toujours être la doublure de son frère karatéka, et finalement lui va rencontrer la femme de sa vie, va rencontrer l'amour et se relance dans quelque chose. Donc autour de ce personnage qui est effectivement Harper, qui gagne un peu de temps et qui ne sait pas trop, une sorte de glandouille esthétique, on pourrait dire, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, ce qu'il peut encore faire de sa vie, ces personnages-là l'aident à repenser à sa vie.
C'est Jean-Baptiste Maudet qui est aujourd'hui l'invité de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio One, pour son premier roman Matador Yankee, prix Orange 2019. Un petit mot sur ce prix Orange, quand vous a-t-il été décerné? Et on est content de voir qu'un grand groupe récompense des jeunes romanciers prometteurs.
Alors oui, le prix Orange, c'est une grande fierté, c'est une grande aventure, parce que ça commence avec 70 livres qui ensuite sont réduits à une liste d'une quinzaine d'ouvrages, puis ensuite 5 ouvrages, et c'est un prix qui est décerné à la fois par des libraires, des lecteurs qui ont la possibilité de voter pour le livre qu'ils souhaitent, et les membres du jury. Donc c'est un parcours assez long, le prix m'a été remis en juin, je crois le 4 juin, j'ai encore la date en tête, et c'est vrai que c'est un prix qui moi me comble de joie, parce que il a relancé le livre également, c'est-à-dire c'est un livre qui est sorti en janvier 2019, et avec ce prix en juin, je suis là aujourd'hui, j'ai d'autres opportunités, et ça prouve que la durée de vie d'un livre peut être un tout petit peu plus longue que ce qu'on croit.
Et on trouve ce livre palpitant aux aventures exceptionnelles, je crois que je ne l'ai pas assez mentionné, c'est les éditions Le
Exactement.
Passage. On marque une première pause musicale et on se retrouve avec notre invité Jean-Baptiste Maudet, Matador Yankee.
Voilà qu'on pleure autour d'une croix, qu'on jette des fleurs, qu'on parle de moi. C'est une belle journée d'été, tout le monde s'est habillé. Les mots qui sortent, qu'on disait pas, le vent les apporte jusqu'à moi. Tout
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jean-Baptiste Maudet, Matador Yankee, c'est le titre de votre premier roman, prix Orange 2019. Justement, on parlait de cet âge d'or de la tauromachie, tantôt aux États-Unis, tantôt au Mexique. Alors, il y a j'aimerais que vous nous parliez de la monumentale de Las Playas, donc dans cette ville mexicaine de Tijuana, qui apparemment a connu des heures exceptionnelles et qui a attiré le grand monde du cinéma américain, captivé par ses combats. Alors évidemment, vous aviez mentionné Orson Welles, mais je les cite puisque c'est page 14, hein, Rita Hayworth, Ava Gardner, Frank Sinatra, vous parlez même de Lee Marvin, James Coburn, toutes dents dehors, souriant au-dessous d'une immense tête de taureau, même le milliardaire, hein, Howard Hughes. Et puis il y a un personnage, donc c'est Antonio, ce personnage qui va demander à votre héros, John Harper, d'aller combattre en échange d'une forme de banqueroute. Et alors, ce monumental de Las Playas, l'âge d'or, c'est les années 50.
Oui, alors c'est un lieu assez extraordinaire, parce que déjà, géographiquement, il est situé à la frontière. Mais quand on dit à la frontière, si vous regardez une image satellite ou si vous regardez une photo aérienne, quand je dis à la frontière, c'est à 10 mètres de la frontière. Vous avez le mur qui se prolonge dans la mer au niveau de Tijuana, et derrière ce mur, vous avez la monumentale des plages, cette arène de Tijuana, qui est positionnée ici parce qu'elle attire tout le public américain. Elle attire le public de San Diego et le public de Los Angeles, qui est à moins de 2 heures de route. Donc vous avez à moins de 2 heures de route d'une immense agglomération comme Los Angeles, où est en train d'exploser, enfin depuis longtemps, mais le cinéma, le monde du spectacle, et vous avez à moins de 2 heures les arènes de Tijuana. Donc à l'époque, dans les années 50, dans les années 60, la tauromachie, elle est très à la mode. Et dans les milieux hollywoodiens, ça se fait d'aller à Tijuana et ça se fait d'aller voir un spectacle. Donc on a ces images, on a ces photographies de James Coburn, de Rita Hayworth, on a en tête des images d'Orson Welles allant à la corrida, allant même ensuite
John
en Espagne.
John Wayne aussi.
John Wayne aussi. Donc on a ce milieu du spectacle qui est quand même très attiré par un autre milieu des spectacles qui est celui de la tauromachie. Et il y a quantité de films hollywoodiens qui sont produits dans ces années-là, des films souvent plutôt de série B, autour de la thématique tauromachie qui était très à la mode. Alors, Tijuana, cette arène, elle a symbolisé ça. Et ensuite, à partir des années, on va dire, fin des années 60, début des années 70, comme ailleurs d'ailleurs, hein, mais il y a l'âge d'or de cette période, de cette rencontre entre le milieu hollywoodien et la tauromachie, il est un petit peu dépassé. Et aujourd'hui, c'est même assez subversif pour un acteur américain, de par la censure, de dire officiellement qu'il aime la tauromachie.
Et d'ailleurs, pour montrer que cette monumentale des plages est un petit peu has-been, vous écrivez « Désormais, la monumentale des plages faisait figure de vice abandonné dans un recoin, l'œil crevé du Mexique que l'on aimait voir de près ». Et d'ailleurs, finalement, on a l'impression que c'est des retraités américains qui viennent là, vous écrivez, quelques bus venus de Los Angeles se pressaient encore aux arènes, mais ils déversaient un public du troisième âge embrigadé dans les maisons de retraite, venus se convaincre que tout cela avait bien existé dans sa jeunesse. Ils étaient obèses ou rabougris, comme si à la fin de leur vie, rien d'autre que le manque ou l'excès ne pouvait prendre forme en eux.
Alors là, c'est le romancier qui parle, hein, évidemment, j'en rajoute un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a encore des spectacles taurins dans ces arènes de Tijuana, dont certains sont d'ailleurs tout à fait présentables, enfin corrects. Et donc, il y a encore un public américain, hein, qui s'intéresse à ça et qui franchit la frontière pour aller voir le spectacle. Mais c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ont pu être les arènes de Tijuana. Et on a cette sensation à la fois de voyeurisme, de voyage groupé qui déambule autour des arènes pour essayer de contempler un lieu qui a représenté quelque chose et qui aujourd'hui est un peu... ne représente plus grand-chose.
Alors, il y a bien sûr le combat que John Harper va mener contre plusieurs vaches dans ce petit village de fous où, effectivement, il va combattre avec un public chaleureux, complètement exalté, alors un peu alcoolisé, mais là, c'est vraiment l'opportunité pour un village de se retrouver pour un événement exceptionnel, parce que c'est un village pauvre où il ne se passe rien. Là aussi, on a besoin de tuer le temps. Et l'Américain blond à qui on prête un costume doré est une sorte de demi-dieu dans les arènes. Et il faut absolument qu'il gagne.
Alors là, effectivement, dans beaucoup de villages mexicains, mais on retrouve ça dans beaucoup de villages du Pérou, dans beaucoup de villages de la cordillère des Andes, vous avez encore des pays taurins, l'Équateur, la Colombie, le Pérou, le Mexique. Dans ces pays-là, dans beaucoup de villages, il y a des jeux taurins. Alors, d'ailleurs, dans certains cas, on ne sait pas très bien si c'est de la tauromachie ou si c'est du rodéo. Il faut bien voir que dans notre tête, on imagine les deux grands spectacles, la corrida espagnole, le rodéo américain, le rodéo nord-américain. Mais dans tous ces villages, on joue avec les taureaux, on joue avec le bétail. Et donc, dans beaucoup de fêtes de village, au moment de la fête du village, il y a un spectacle, un jeu, un spectacle. Souvent, d'ailleurs, les villageois peuvent y participer. Et on lâche un taureau sur une arène préfabriquée ou sur une arène que l'on fabrique pour l'occasion ou sur la place d'un village qui est fermé et avec lequel il y a toujours une partie un petit peu sérieuse. Donc là, on fait appel à un torero de métier. C'est souvent un torero local qui est pas très bon. Et ensuite, les villageois qui aussi jouent avec le bétail. Donc la venue de Harper, l'Américain qui vient jusque dans la Sierra Madre occidentale pour venir torer avec un vrai habit de lumière est accueillie comme un événement exceptionnel. Donc le public se précipite avec cette ambivalence, à la fois l'envie de faire la fête, à la fois de voir le gringo se faire déborder, dépasser par les vaches qui sont le fruit du travail des paysans du coin. Donc il y a toujours ce regard que j'aime bien, ambigu sur à la fois la fascination et le plaisir enfoui de voir l'icône américaine se faire balayer par le bétail local. Oui, et ça, c'est très présent dans la tauromachie, qui parfois, en tout cas dans ce pourquoi les gens viennent voir les taureaux, il y a à la fois une fascination pour le courage et à la fois on est toujours au bord du burlesque et du ridicule dès que ça ne se passe pas comme prévu, voire du tragique et du absolument ignoble lorsqu'il y a des débordements, lorsque ça se passe mal, lorsque le sang coule plus que nécessaire, etc. Donc c'est une pratique qui quand même va chercher en nous des choses très contradictoires.
Concernant la pauvreté des villages mexicains, vous écrivez « Le village qui s'enfonçait dans la pauvreté depuis des années se serait rendu à la prodigalité d'Antonio, visite après visite, dollar après dollar. Depuis longtemps, les plantations de marijuana ne suffisaient plus à atténuer la misère et on avait beau sacrifier des taureaux, le maïs et le bétail de Cerro Cachi, je l'ai bien dit, Cerro Cachi, n'avait plus rien de concurrentiel. L'agriculture familiale de la Sierra Madre ne pesait plus face aux arrangements économiques mondiaux auxquels personne là-haut ne comprenait rien. » C'est aussi, quelque part, un regard sur un monde peut-être un peu archaïque qui est dépassé par ce qu'on appelle la mondialisation et qui, vraisemblablement, est condamné encore à s'enfoncer dans la misère.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de villages dans lesquels il y a à la fois un accès immédiat à la modernité, hein, les téléphones portables, Internet. Il y a une économie ne marche pas très bien, l'économie traditionnelle encore moins. Il y a par-dessus des pratiques plus ou moins illicites qui essaient de donner le change pour maintenir certains groupes, certaines populations qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Donc on a ce mélange dans ces villages reculés de la Sierra Madre, comme dans beaucoup de villages du monde rural, ce mélange entre une modernité, un accès à la modernité, des formes très archaïques où certains rites demeurent, certains rites qui sont liés aussi à des rites de fertilité pour la bonne venue des récoltes. Donc on a ce mélange très complexe avec quand même beaucoup de villages qui s'appauvrissent puisque l'économie locale elle est perturbée par les grands le fonctionnement on va dire économique lié à la mondialisation. Donc on a ces angles morts dans lesquels il se passe beaucoup de choses. Alors là c'est le romancier qui parle, hein. Je dis pas que mon regard il est économiquement valable ni anthropologiquement valable, mais on a ces angles morts qui sont peu regardés, c'est-à-dire que on s'intéresse aux grandes villes, on s'intéresse aux choses qui fonctionnent sur le réseau médiatique, sur le réseau économique, et entre les mailles de ce filet il y a des lieux, des espaces, des individus qui passe un petit peu en dessous des radars.
Et ce qui explique aussi que la jeunesse mexicaine, lorsqu'elle le peut, a envie de quitter ce pays, de s'offrir une autre vie. Peut-être qu'il y a toujours le rêve américain pour les oui. Mexicains les plus pauvres, ce qui, bien sûr, pose un gros problème.
C'est évidemment, encore l'immigration mexicaine aux États-Unis, elle est ancienne, hein. Elle est ancienne, elle est toujours contemporaine. Elle provoque des drames profonds et on connaît actuellement la complexité des relations entre le Mexique et les États-Unis autour de ces questions et les positions de Donald Trump sur le problème. Donc, évidemment que pour beaucoup de Mexicains, l'Eldorado, c'est les États-Unis. Et dans beaucoup de villages du monde rural, la ruralité profonde du Mexique, le rêve américain demeure quelque chose de viable, à la fois quelque chose d'odieux, quelque chose de viable, d'enviable, je veux dire. Donc, Magdalena, elle est prise dans cette ambiguïté.
Voilà, c'est ça. Magdalena, elle a fui son village parce qu'elle, bon, elle rêve de Miami, elle rêve de luxe, de cocktails, de piscine. Voilà.
Alors, Magdalena, une très jolie fille, elle se retrouve dans ce village, elle n'a pas envie d'être agricultrice, elle n'a pas envie de tenir la petite épicerie familiale, elle rêve d'aller aux États-Unis, elle rêve déjà de changer de vie, donc elle procède par étapes, elle va d'abord dans une grande ville au Mexique, puis ensuite elle va à Tijuana, et arrivée à Tijuana, elle se trouve confrontée donc à ce mur, à cette violence aussi des contrastes entre les États-Unis et le Mexique, et du coup, elle rêve de Miami, parce que pour elle, Miami, c'est encore plus loin, c'est pas juste de l'autre côté du mur, il faut retraverser toute l'Amérique, il faut déjà passer le mur et retraverser l'Amérique. Donc elle s'invente un rêve américain à elle, qui serait pas juste de l'autre côté du mur, c'est-à-dire ni San Diego ni la Californie, mais qui serait plutôt les flamants roses de Miami, les piscines bleues en forme de haricots, et les cocktails et tout ce qui va avec... pour elle dans sa tête.
Et puis ce dont elle aurait besoin, c'est d'un homme, d'ailleurs vous écrivez, elle avait encore un peu d'espoir de trouver un homme qui donnerait tout aux autres. Il lui manque aussi l'amour et une vie convenable, loin de la misère et effectivement du modèle familial qui ne l'intéresse pas. Elle n'a pas envie d'être courbée dans un champ, abîmée, abêchée, ça ne l'intéresse pas.
Ça ne l'intéresse pas, elle va à Tijuana pour, un petit peu, pour essayer de s'en sortir et puis rapidement elle se rend compte qu'elle ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'elle travaille dans un bar, elle gagne très peu d'argent et c'est là qu'elle rencontre son cousin. Qui donc est Miguel, qui est celui qui rembourse la dette de jeu de Harper. Et Miguel tombe très amoureux d'elle et finalement finit par la séquestrer parce que elle ne veut pas de cet amour-là. Elle ne veut pas de l'amour de son grand cousin. C'est pas ça qu'elle cherche. Et l'énigme se noue à partir de ce double mensonge croisé dont j'ai parlé au début. C'est-à-dire que Harper, il a menti sur sa dette de jeu et Miguel, quand il envoie Harper dans le village mexicain, il a menti sur ses véritables intentions qui sont de se marier avec Magdalena.
Il faut dire aussi que Miguel, c'est celui qui s'en sort le mieux, puisque lui, il part en Europe, j'en dis pas trop, mais à la limite, il fuit ce continent, il fuit à la fois la nostalgie, il fuit la médiocrité, il s'offre le rêve européen et en plus, il ne part pas seul.
Alors Miguel, oui, excusez-moi, j'ai dit Miguel au lieu d'Antonio, hein, c'est Antonio qui
est amoureux de
Magdalena.
Oui, oui.
Miguel, c'est l'oncle de Magdalena et lui, donc c'est là, ça a toujours été l'associé de son frère dans tout ce qu'il a fait. Son frère, hein, le maire karatéka, Miguel l'a toujours aidé. Ça a toujours été un peu sa doublure, son partenaire. Et Miguel, il a envie d'avoir une vie, une propre vie à lui. Il s'en rend compte dans le voyage. Il tombe amoureux d'une serveuse, Adela, et il va vivre. Il pense pouvoir vivre le grand amour avec Adela. Et effectivement, lui a une trajectoire très lumineuse parce que les autres soit s'enfoncent dans le paradoxe, dans la misère ou dans des vies qu'ils n'arrivent pas à transformer. Miguel, lui, il a une capacité de transformation. C'est quelqu'un, un personnage qui est toujours qui prend la vie du bon côté, qui est de bonne humeur, qui a un réel don pour incarner différents personnages, différentes situations, et lui il va avoir une trajectoire lumineuse, on raconte pas tout, mais c'est celui qui va pouvoir partir en Europe.
Jean-Baptiste Maudet, si vous le voulez bien, on marque une nouvelle pause musicale à bord de Wagon Livre. Je rappelle que vous signez un premier roman aux éditions Le Passage, roman qui a pour titre Matador Yankee.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Yobat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Ah,
étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Oh 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 oh.
On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume.
Oh 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 oh.
Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Oh 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 oh.
Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume.
Oh 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 oh.
Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jean-Baptiste Maudet, notre invité, signe un premier roman aux éditions Le Passage, c'est Matador Yankee. Alors on est rentré, avec, grâce à vous, hein, on est tantôt aux États-Unis, au Mexique, aux côtés de votre gringo torero John Harper, cet Américain qui est blond et qui vient enchanter les foules d'un petit village pour des combats contre Querétaro. Et justement, il y a un passage que je vais vous demander de lire, Jean-Baptiste Maudet, c'est le passage où justement les taureaux sont apportés. Parce que vous expliquez aussi qu'à la grande époque, il y a une sélection des taureaux. Vous parlez même d'une forme de darwinisme. Alors, ça vous fait sourire.
Oui, oui, parce que là, il y a deux mondes en réalité. Il y a vraiment le monde du spectacle professionnel pour lequel effectivement les taureaux sont rigoureusement sélectionnés, que ce soit dans le monde de la tauromachie ibérique ou dans le monde du rodéo américain. Les taureaux de rodéo aujourd'hui font l'objet d'une grande attention, d'une grande sélection pour essayer de créer, hein, de toutes pièces, par la sélection, les animaux les plus combatifs. Donc, ce qui a entraîné d'ailleurs, hein, la grande transformation du rodéo aux États-Unis. Hein. Aujourd'hui, on a vraiment des taureaux qui pèsent, qui avoisinent la tonne et qui sont extrêmement difficiles à monter. Paradoxe étrange, puisque le héros du rodéo américain, qui est un cow-boy, se trouve 9 fois sur 10 balancé dans la poussière. C'est étrange de se dire que le rodéo, c'est un des spectacles les plus emblématiques de la culture états-unienne, avec un héros qui se trouve balancé dans la poussière par un taureau ibérique, qui de toute façon vient de la péninsule ibérique. Donc c'est pas le moindre des paradoxes d'avoir comme jeu emblématique de sa culture, un jeu dont le héros se retrouve toujours dans la poussière. Bon, je referme la parenthèse. Et dans le monde des fêtes populaires, en tout cas dans tous les secteurs où il y a de l'élevage, au moment des fêtes, on va chercher le bétail. On va chercher une ou deux vaches qui ont été choisies. Et le sens du mot rodéo, qui veut dire entourer, encercler, c'est celui-là. On va d'abord encercler le bétail pour, à l'origine, soit déjà pour le récupérer, pour le rassembler, pour le soigner, pour le commercialiser, pour le vendre, pour lui faire prendre la piste. Mais le mot rodéo a ce sens-là. C'est d'abord une pratique d'élevage. Donc dans ce passage, il y a une forme de rodéo, au sens premier du terme. À l'heure où Harper s'était endormi, des cavaliers étaient partis dans la montagne chercher le bétail. Les chevaux de petite taille grimpaient sans à-coups, presque en silence, dans les rochers. Les cavaliers montaient à cru et se servaient de leurs chapeaux pour battre la croupe de leur monture quand un obstacle devait les freiner. certains étaient pieds nus dans leurs étriers. Ils avaient laissé une dizaine de bêtes dans une combe herbeuse, des vaches qui se tenaient serrées les unes contre les autres durant les nuits froides et se rassemblaient la journée sous des fantômes d'arbres pour trouver un peu d'ombre. Aucune vache n'avait le même pelage, les robes brunes et sable dominaient, les unes bigarrées, les autres finement charbonnées. Vers le haut de la colline se dressait un taureau blanc aux pattes fortes, enfermé dans un enclos de rocailles qui balançait sa queue sur des flancs amaigris. Les cavaliers avaient encerclé les vaches qui offraient peu de résistance à se laisser guider malgré les fourrés d'épineux. Aucun d'eux n'avait eu besoin d'utiliser son lasso, si ce n'était pour faire siffler la corde dans les airs et projeter au sol des ombres effrayantes sous la lune. Une génisse s'était cabrée et avait donné des coups de corne dans le vide à la recherche d'un puma. Les chevaux gardaient leurs yeux brillants bien ouverts en laissant échapper de leurs naseaux des panaches. Ils avaient l'habitude de contenir le bétail malgré la forte pente et de rattraper les vaches qui essayaient de fuir. Les hommes donnaient de la voix pour presser la cohue. Deux cavaliers, plus en arrière, s'étaient chargés d'attraper au lasso le taureau par les cornes. Ils l'avaient sorti de son enclos avec difficulté et l'escordaient corde tendue. Les chevaux luttaient, chacun dans un sens, pour fatiguer la bête et la faire descendre. Le taureau essayait de se défaire du piège, s'arc-boutait, raclait le sol avec ses pattes, mais perdait du terrain. Le mugissement de la bête avait réveillé d'autres animaux, des oiseaux que personne n'avait vus, et le ciel commençait à s'éclaircir, une lumière pâle annonçant les grosses chaleurs. Une fois au village, les vaches furent conduites dans un corral derrière les arènes. On leur donna à boire et deux ballots de paille. La poussière formait des colonnes qui tourbillonnaient vers le ciel et se dissipaient dans le vent. Le taureau fut isolé dans les arènes, en piste au milieu des mouches. Il léchait des restes de tacos et des têtes de gambas pour en sauver le sel.
Jean-Baptiste Maudet, merci pour cette lecture partagée. Alors, il y a les scènes les scènes de combat, John Harper affrontant les différentes vaches. D'ailleurs, il y a tout de même un culte de la virilité, de la robustesse et de la force. J'ai relevé cette phrase que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ce gamin, en parlant de John Harper, ce gamin résumait la révolution néolithique avec une grosse paire de couilles et un bout de chiffon. Pas mal comme raccourci, c'est
oui,
efficace.
C'est un raccourci inventé par son impresario qui, pour qu'Harper puisse trouver des petits spectacles à la frontière États-Unis-Mexique, lui invente une forme d'aura. Et donc, c'est son impresario. Il est chargé de le cornaquer, c'est le cas de le dire. Et donc, il a le sens de la formule. C'est comme une forme d'impresario de génie qui trouve les bonnes formules pour essayer de faire monter sa vedette.
Alors, j'ai noté une petite information que vous glissez dans le roman et qui apparaît, je ne sais plus, dans la bouche de quel personnage. C'est une info concernant James Dean. Apparemment, est-ce que c'est vrai? James Dean aimait dormir dans une cape de torero qui recouvrait ses draps. Où avez-vous pioché cette info?
Alors oui, c'est un détail que j'ai pioché dans un livre sur le cinéma hollywoodien et la tauromachie. C'est une anecdote qui m'avait bien plu. Je me rappelle pas exactement le titre du livre, mais effectivement, James Dean, c'est ce que dit en tout cas le livre, dormait avec une cape de torero sur son lit et aurait rêvé d'être torero.
Il aurait peut-être fini autrement qu'au volant d'une Porsche.
Il serait mort différemment peut-être.
Absolument. Il y a aussi dans votre roman, donc j'ai dit une galerie de personnages tantôt grotesques, tantôt extraordinaires. Il y a le grand-père de la serveuse, ce vieil indien qui passe ses journées dans le bar à regarder fixement la télévision pendant que sa fille sert des cafés et autres bières aux Américains assez grossiers qui traînent dans le bar. C'est un personnage exceptionnel. Qui est aussi, lui, un héros, puisqu'il va aller, je ne vais pas trop raconter, mais disons qu'il va sauver une jeune femme qu'il va récupérer contre, pourtant, des défenseurs musclés dans un bordel. Et là, c'est une fuite, là, le début du road movie, et ce vieil Indien est surprenant, parce qu'en plus, il a encore une force physique, on a l'impression qu'il est au bord de la mort, alors que finalement, il apparaît comme un personnage magique.
Oui, alors...
Et énigmatique surtout.
Exactement, on ne le voit pas venir. C'est un petit peu le sens de lui, de sa trajectoire romanesque. C'est-à-dire que c'est le grand-père d'Adela qui est une serveuse dans un bar, et Adela qui accepte de partir avec Miguel dans cette remontée vers Tijuana pour aller chercher Magdalena. Elle ne veut pas partir sans son grand-père. Et son grand-père, c'est un homme assez taciturne qui est assis devant la télé, qui regarde toute la journée la télévision. Il a un bandeau de rocker sur la tête et des cheveux un petit peu longs. Il ressemble plutôt à un biker en fin de course. On ne sait pas trop ce personnage à quoi le rattacher. Et puis, au fur et à mesure, il y a un regard qui se déploie sur ce grand-père. Il est tantôt attendrissant, tantôt il mange du chocolat, tantôt il dit rien, il s'endort, il dort beaucoup, il baille beaucoup. Et puis, ça va être un peu le personnage qui va dénouer la situation cruciale au moment où il va falloir se faire sortir Magdalena du bordel, qui est ni plus ni moins que séquestrée dans ce bordel. Eh bien, c'est ce vieil Indien qui va ressurgir, comme s'il était un petit peu, vous l'avez dit en début, hein, en début d'émission, comme si c'était la réincarnation d'un grand guerrier indien, de Geronimo en particulier. Donc sa coupe de cheveux et de biker, finalement, c'est la tête de Geronimo. C'est une photo qu'on connaît bien de Geronimo, avec ses cheveux mi-longs, son visage cuivré, son visage large, son bandeau qui attache ses cheveux. Eh bien, cet Indien va être en quelque sorte la réincarnation de Geronimo. Alors là, c'est une partie du roman, que j'aime bien, et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette scène et à tisser les traits de caractère de ce personnage, parce qu'évidemment c'est un vieillard un peu grabataire, et tout d'un coup dans l'action il se révèle être la réincarnation d'un grand guerrier plein de force, plein de courage, et qui va un petit peu débloquer la situation romanesque du
Alors vous avez parlé de Geronimo, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce grand chef des Apaches Chiricahuas. Vous écrivez, on racontait que Geronimo avait appris dans sa jeunesse à courir 8 km en respirant par le nez, la bouche pleine d'eau, sans en boire et sans en perdre une goutte. Extraordinaire aussi.
Extraordinaire légende sur Geronimo. On voit cette légende, elle est rapportée par plusieurs écrits sur la vie de Geronimo. Il y a eu quand même, c'est un personnage qui a suscité beaucoup de fascination. Il y a eu beaucoup d'écrits sur la vie de Geronimo, et on trouve des anecdotes de ce genre, de vraiment qui sont tout à fait en tant que telles, qui dépassent l'imagination de n'importe quel romancier, et qui pour moi sont des pépites à pouvoir réutiliser dans un roman tel que celui-là.
En tout cas, Geronimo est mort en 1909, ça fait donc 110 ans exactement cette année.
Ah oui, voilà.
Et puis, vous parlez aussi du premier torero américain, le Harper Bailey. Alors oui. Harper, bien sûr, c'est aussi le prénom de votre héros.
C'est ça. Donc les toreros souvent s'affublent d'un surnom, donc John Harper. Le mot Harper vient de ce torero, le premier torero gringo, premier torero yankee qui a fait carrière, qui est né au Texas, qui s'appelait Harper Billy, le premier s'est lancé dans cette carrière un peu folle, qui, lorsqu'on est né de ce côté-là de la frontière, il a fallu en réalité une situation familiale un peu particulière pour que Harper Billy devienne torero et s'intéresse à la tauromachie mexicaine.
Et puis, il y a de superbes passages, j'allais dire, de géographie. Par exemple, donc, Harper est au volant de sa, un pick-up,
c'est ça.
Voilà, c'est le mot qu'il me manquait, un pick-up. Et vous écrivez, il ouvrit les fenêtres du pick-up pour sentir la vitesse, la force du vent et suivre du regard la longue cordillère pacifique qui courait des Rocheuses à la Patagonie. Il sentait les pins rouges, les séquoias géants, les araucarias et le continent tout entier s'étirer. Ces hautes terres méridiennes avaient été parcourues tant de fois par la flore étagée, des plateaux arides aux forêts de mousse. Les animaux avaient tant de fois rejoint les piémonts ou gagné les sommets pour se protéger de la sécheresse et s'affranchir des frontières. Tout bougeait ensemble, tout prenait place sans bruit ou dans le fracas soudain d'un mouvement de l'écorce. Les vertèbres de l'Amérique craquaient sans se désarticuler. C'est magnifique.
Merci. J'aime bien ce passage parce qu'il a un sens par rapport au... Alors, j'aime pas trop dire le message du roman, mais il y a cette grande cordillère des Andes et qui se poursuit jusqu'aux Rocheuses américaines, qui forment comme une colonne vertébrale de l'Amérique. Et ce livre, il est aussi là pour parler des frontières, pour parler de leur caractère très transitoire à cette échelle-là, et cette cordillère est un peu la métaphore de cette continuité américaine que Harper retrouve dans la route. Harper, quand il parcourt avec son pick-up l'Amérique, il ressent viscéralement la continuité de l'Amérique, parce que lui-même représente cette continuité et ces contradictions d'un torero yankee qui va vers le sud pour faire fortune.
Petit clin d'œil à Kerouac, d'une certaine un petit
exactement,
peu aussi.
Exactement, il y a la fascination pour la route qui est présente dans tout le livre. Ouais.
Et ça remonte quand on lit, je veux dire, ça remonte. Je voudrais, Jean-Baptiste Maudet, que vous lisiez le paragraphe, là encore, ce sont des éléments concernant le décor naturel. Et là, c'est l'écriture d'un géographe, et c'est magnifique ce décor que vous nous offrez dans ce roman.
Il aimait traverser l'Amérique, sentir les longues nuits, voir les déserts s'étendre et les clairières s'ouvrir. Il roula vers le sud, jusqu'au bout de la Sierra Madre, déclinant en paliers. Il coupa vers l'intérieur par Aguascalientes, León, Querétaro, ne s'arrêtant que très peu, ne mangeant presque rien, ne buvant presque pas, roulant jusqu'à ce que l'énorme réservoir du pick-up soit vide, le remplissant à nouveau, chargeant les jerrycans, éreintant tel plateau et franchissant tel col, poursuivant vers le sud, contournant Mexico, les tables disséquées, le Popocatépetl dressé au-dessus des nuages, traversant la terre des Indiens, de Oaxaca, l'isthme de Tehuantepec, le Chiapas, la forêt profonde, les pluies de l'été, les chaussées ensevelies de boue, et puis les troncs en travers de la route, les crevaisons, les surchauffes du moteur, les casses, les heures passées à réparer une pièce de métal, de l'eau fraîche sur la nuque, et puis rouler encore à pleine vitesse, avaler la transaméricaine, croiser la noria des poids lourds, dépasser Panama et les barrages nocturnes, les fouilles au corps, la torche braquée sur le visage, les yeux ouverts, suivre les lignes en serpent, sentir les parfums de l'Amérique, écouter battre le cœur du continent.
C'est absolument superbe et je suis très heureux, Jean-Baptiste Maudet, du temps que vous nous avez accordé et très heureux aussi d'avoir pu partager la qualité de ce roman, Prix Orange 2019, avec les auditrices et auditeurs de l'émission littéraire que j'anime sur Radion, Matador Yankee de Jean-Baptiste Maudet. Avant de nous séparer, l'écriture, deuxième roman ?
Alors oui, d'abord merci beaucoup de m'avoir consacré autant de temps parce que c'est rare que l'on puisse parler autant de temps d'un seul livre. C'est très appréciable. En plus, moi, j'ai fait lire la phrase la plus longue du roman. Et oui, alors il y a un deuxième roman qui va sortir en janvier, qui se passe en Sibérie. Donc c'est un défi très différent, qui toujours aux éditions Le Passage, et qui donc est terminé et bientôt imprimé. Voilà.
Merci Jean-Baptiste Maudet, Matador Yankee aux éditions Le Passage. Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Puis je rappelle que s'ils ont manqué le début de cette émission, ils la retrouvent sur le site d'archives de l'émission Wagon Livre via Internet. Vous savez, c'est magnifique Internet. www.yannickpetit.fr. Au revoir Jean-Baptiste Maudet.
Au revoir, merci.
Et puis prochain rendez-vous de Wagon Livre, samedi prochain à 11h, toujours sur Radion. Au revoir à toutes et à tous.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi. Sur Radion.